Bonjour Jean-Fabry.
Bonjour.
Alors Jean-Fabry, vous êtes enseignant à l'université de Tours, voilà précisément à la fac de sciences, il me semble.
Exactement, je suis enseignant-chercheur depuis plusieurs années à l'université de Tours, au département de mathématiques, au laboratoire l'Institut Denis Poisson.
Et alors il se trouve aussi que vous faites partie, vous êtes un membre éminent peut-être, peut-on dire, du syndicat des enseignants de l'université, est-ce que c'est ça?
Oui, alors je suis le secrétaire de la section syndicale SNESUP. Le SNESUP, c'est le principal syndicat d'enseignants-chercheurs et d'enseignants des universités partout en France et à Tours comme ailleurs.
Est-ce que vous voulez nous dire comment se situe le SNESUP dans la galaxie des syndicats, voilà, par rapport aux autres syndicats?
Alors il y a effectivement en France et dans tous les champs professionnels de nombreuses organisations syndicales. Ça n'est pas toujours une aide à la mobilisation puisque les personnels peuvent croire que les uns et les autres ont des intérêts particuliers. Nous, au SNESUP et dans la FSU, nous sommes favorables au maximum de convergence et nous sommes dans une démarche unitaire. Le syndicalisme rassemblé est certainement le plus efficace puisqu'il s'agit de construire un rapport de force avec les employeurs, parce que nous sommes avant tout un syndicat de salariés, les enseignants-chercheurs, les enseignants, les doctorants salariés. Et nous cherchons aussi à défendre les valeurs démocratiques de l'enseignement supérieur, l'accès des étudiants dans de bonnes conditions à des formations, à des débouchés, l'accès des doctorants à des formations doctorales de qualité, puis ensuite à des emplois, soit dans les sphères publiques, soit dans les sphères privées. Donc plus les salariés sont nombreux dans les syndicats, et plus les syndicats ont des plateformes convergence, mieux c'est. Donc au SNESUP, nous travaillons à ces convergences, à ces rassemblements. Et historiquement, nous sommes la plus importante force syndicale, à la fois au niveau national et à Tours. Par exemple, à Tours, nous sommes la seule force syndicale qui présente des candidats à toutes les élections locales et nationales, et nous avons environ 40% d'élus.
Alors vous nous dites qu'il y a d'autres syndicats, est-ce que vous voulez nous dire quelles sont ces autres chapelles?
Moi je ne verrais pas ça comme des chapelles, puisque les périmètres des autres organisations syndicales peuvent être différents, puisque l'université, c'est un grand ensemble. Il y a maintenant près de 30 000 étudiants, nous sommes environ 3 000 salariés à l'université avec des missions et des statuts extrêmement différents. Et certains syndicats sont organisés sur des créneaux de métiers au sein de l'université. Donc par exemple, le SGEN CFDT est présent à l'université, mais essentiellement, c'est les personnels administratifs. D'autres syndicats sont présents uniquement, quasiment exclusivement chez les personnels des bibliothèques. C'est le cas de la CGT. Donc on a un arc-en-ciel en quelque sorte syndical très, très divers, très hétéroclite aussi, qui n'est pas toujours facile en ce qui concerne la détermination d'objectifs unitaires.
Alors c'est vrai qu'on a pu aussi échanger avec d'autres représentants d'autres syndicats. Alors certains se définissent comme réformistes et d'autres plutôt comme révolutionnaires. À votre avis, où se situe le SNESUP?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le SNESUP ne se situe pas dans cette lecture idéologique, on va dire simpliste.
Je vous laisse le choix de ce mot.
Non, mais je l'assume parfaitement et j'ai été pendant un certain temps, ça remonte à 10 ans, secrétaire général au niveau national du SNESUP, et donc j'assume pleinement ce terme-là. Nous sommes pour un syndicalisme que nous portons le plus unitaire possible, je l'ai dit, le plus rassemblé possible, et qui agit dans l'intérêt des personnels qui s'indiquent, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants-chercheurs et enseignants des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur, pour défendre leurs conditions de travail, leurs conditions de rémunération, leurs conditions de retraite, et actuellement c'est vraiment des préoccupations essentielles, pour défendre le service public, pour défendre la démocratie à l'intérieur des établissements, et à Tours, comme au niveau national après la loi LRU, nous avons beaucoup à faire, puisque on est passé d'universités qui étaient plus ou moins collégiales à des universités dirigées par des managers qui se passent allègrement des instances élues, conseils d'administration et autres, comme ça se passe de manière assez violente à Tours.
Alors, est-ce que vous voulez, Jean-Fabry, justement, détailler pour nos auditeurs, qui sont surtout lycéens et étudiants, quels sont les points d'ombre, les difficultés que vous avez identifiées à l'arrivée de cette rentrée, en tout cas pour l'Université de Tours ?
L'Université de Tours partage avec beaucoup d'autres universités les mêmes problèmes, un sous-financement chronique qui vient avant tout de l'absence d'engagement fort de l'État pour assurer l'accès des nouvelles générations, celles qui viennent de passer le bac ou celles qui veulent se remettre aux études supérieures, aux études post-baccalauréat, quelle qu'en soit la nature, que ce soit des formations d'ingénieurs, des IUT, des formations de type licence master ou doctorat. Donc en France, on a plus de jeunes dans les classes d'âge qui sont celles des années 2000, hein, du petit boom démographique des années 2000, et on a de moins en moins d'enseignants-chercheurs et d'enseignants depuis maintenant 20 ans. En gros, on a perdu 1000 enseignants-chercheurs au niveau national, ce qui est un nombre très significatif si on pense que les enseignants-chercheurs, il n'y en a pas plus de 57 000. Donc il y a une absence très, très lourde de personnel. Évidemment, ceux qui sont face aux étudiants dans les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, mais il y a aussi une absence de personnel administratif comme de personnel technique pour préparer les salles de TP, pour réaliser les expériences, puisque à l'université, on ne fait pas que de l'enseignement, on pratique aussi des activités scientifiques de haut niveau dans tous les champs scientifiques pour produire l'essentiel des nouvelles connaissances. Et l'université est le lieu où s'élaborent ces nouvelles connaissances. Donc nous n'avons pas du tout assez de moyens. Nous avons de plus en plus d'étudiants et de plus en plus de choses à faire. En particulier parce que les étudiants sont de plus en plus différents, ce qui est une bonne chose. Nous les prenons tels qu'ils sont, mais il faut des pédagogies différenciées, des moyens de soutien. Nous n'avons pas les forces humaines pour les assurer dans de bonnes conditions. Plus d'autres aspects importants, la précarisation, c'est-à-dire au lieu de recruter des personnels titulaires, le ministère pousse à le recrutement de personnels précaires qui vont enchaîner des contrats courts de 3 mois, de 6 mois, d'un an, de 2 ans, de 3 ans, et donc ne pas pouvoir s'inscrire dans la durée longue de l'enseignement ou de la recherche, qui sont toutes des activités, qui ne sont pas des activités éphémères, qui sont des activités pérennes qui nécessitent des personnels titulaires. Donc c'est la difficulté, et malgré ces difficultés, nous essayons de faire face, de délivrer les enseignements les plus qualifiés, les plus responsables, les plus ouverts à toutes les étudiantes et les étudiants qui viennent à l'université, mais nous travaillons dans des conditions lourdes et difficiles.
Mais alors ces problèmes de sous-financement, concrètement, qu'est-ce que l'Université de Tours pourrait y faire, puisque vous dites bien que c'est une responsabilité du ministère?
Bien sûr que, et nous défendons justement cette logique nationale, puisque pour nous, et c'est aussi une singularité du SNESUP dans le paysage syndical, nous pensons que l'enseignement supérieur doit rester une compétence de l'État et que les diplômes doivent rester des diplômes nationaux, et pas un diplôme qui aurait un certain contenu, voire une certaine valeur sur le marché du travail, avec le même intitulé à Paris, à Marseille, à Tours ou à Lille. Donc nous tenons beaucoup à ce caractère national, qui est un atout pour les lycéens et leurs familles. Et pour cela, nous avons besoin d'un financement national. À l'heure actuelle, le financement national fait défaut. Les financements régionaux sont très marginaux. Les financements privés le sont aussi, lesquels financements peuvent contribuer à des activités mixtes de recherche. Nous n'y sommes pas opposés. Donc les difficultés, elles viennent essentiellement de cet aspect national. Mais pour autant, l'équipe présidentielle à Tours, le président Vindrix, ne fait pas tout ce qui est indispensable pour exiger de l'État des moyens nécessaires avec l'augmentation de nos effectifs, en gros plus 6000 étudiants en 10 ans, avec moins de personnel enseignant et moins de personnel administratif. C'est pas possible. L'université devrait collectivement, solidairement taper du poing sur la table et mettre l'État devant ses responsabilités. Actuellement, on n'est pas du tout dans cette logique et on est plutôt dans un accompagnement compréhensif par le président Vindrix et son équipe du sous-financement de l'université avec des dispositifs d'ajustement dans les marges pour essayer de tout faire passer le plus pacifiquement possible, sans trop de drames. Mais on voit bien que nous n'avons pas les moyens d'accepter tous les étudiants en psychologie, par exemple, dans d'autres filières aussi sous tension comme les sciences de la vie. Et puis, il y a des formations qui sont mises en exergue par la présidence de l'université pour singulariser l'université de Tours, mais qui ne correspondent pas à des besoins réels, qui sont là seulement pour des effets d'annonce et qui déséquilibrent les forces de l'université.
Alors plus 6000 étudiants à l'université de Tours, à une échelle nationale, ça situe comment l'université de Tours, ces 6000 étudiants en plus?
Ça devient une université qui est une grosse université moyenne, pluridisciplinaire et périphérique, puisque la taille est importante, mais nous ne sommes pas dans une métropole, nous ne sommes pas, même si administrativement Tours comme Orléans sont devenus des métropoles, nous ne pouvons rivaliser du point de vue de la population, du bassin d'emploi, du bassin de stage pour les filières pour lesquelles les stages de formation sont importants, avec Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou Montpellier. Donc de ce point de vue-là, nous pouvons assumer pleinement nos missions de formation et de recherche, mais nous avons besoin de financements beaucoup plus importants par l'État. Malheureusement, la logique actuelle de l'État, c'est de concentrer ses moyens, pas assez, mais de concentrer ses moyens sur les grandes métropoles au détriment des universités, on va dire, de taille moyenne, comme Tours, comme Poitiers, par exemple, qui sont des universités qui assurent pleinement leur mission, mais qui sont mises en grande difficulté par la politique nationale. Ça ne date pas de la présidence d'Emmanuel Macron, ça fait une quinzaine d'années que c'est en cours, et ça a été lourdement aggravé par la loi LRU, qui a été promulguée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et mise en avant par la ministre Valérie Pécresse.
Alors ça veut dire que quand bien même Philippe Vindrix réclamerait plus d'argent au ministère, ça ne marcherait pas?
Encore faut-il le demander avec énergie, avec la volonté de solidariser l'ensemble des étudiants et des personnels de l'université sur cette revendication. On peut demander les choses très gentiment, assis poliment en train de prendre un café avec la ministre, mais ça n'aura aucun effet. On sait bien que ces questions-là sont des questions de rapport de force. Et le SNESUP, plus que d'autres organisations syndicales, averti par l'histoire du mouvement syndical, il sait bien que ces questions-là se traitent en mobilisant, ça veut dire en informant, en donnant à tous les personnels, tous les acteurs, tous les présents à l'université, tous ceux qui s'intéressent au développement de l'enseignement supérieur, ça peut être les parents, ça peut être des industriels qui sont évidemment soucieux, enfin qui peuvent être soucieux de l'avenir des formations dispensées ici, eh bien d'être solidaires de l'université et de ses besoins importants en financement comme en poste d'enseignants-chercheurs et de personnel technique.
Est-ce que vous avez des exemples justement d'industriels qui contribuent à l'université de Tours?
Alors les industriels ne contribuent pas directement au financement de l'université de Tours, on va dire que ce serait même plutôt l'inverse. La logique actuelle est plutôt dans une logique où on met au service de manière partagée d'industriels des équipements scientifiques qui servent à la fois à des laboratoires publics, ceux de l'université, et à des laboratoires privés, ceux d'entreprises de Tours ou plus loin de la région. Donc il y a un partage des intérêts, ça peut être lié à la localisation, à l'achat du matériel, à l'achat des produits consommables dans ces laboratoires. En gros, c'est une logique de développement conjugué, partagé, sur laquelle nous ne nous opposons pas, mais ça ne peut pas être le cœur des ressources de l'université que de compter sur le court terme des financements éventuels d'industriels. Puisque notre vocation en termes de recherche, c'est de faire de la recherche fondamentale, bien sûr aussi de la recherche appliquée, mais l'intérêt des industriels porte le plus souvent sur la recherche immédiate, voire le transfert de résultats acquis dans une période récente vers les process industriels.
Ce qui va se passer, Jean-Fabry, d'ici 10 ans, si on ne change rien à la situation actuelle?
Nous comptons bien que les choses changent et nous y travaillons. Alors, le SNESUP n'est pas du tout dans une logique d'acceptation de la situation actuelle. Nous participons aux mobilisations et construisons les rapports de force, construisons les interventions et l'expression des collègues dans les élections. Il va y avoir prochainement des élections à la présidence de l'Université de Tours. Nous y participerons en essayant d'infléchir le plus possible les orientations de l'université pour accueillir mieux les étudiants, pour obtenir du ministère davantage de financement, davantage d'emplois, pour faire en sorte que l'environnement de l'université s'améliore en termes d'équipement sportif, en termes de fonctionnement culturel, en termes d'équipement, de logement pour les étudiants. Donc nous y travaillons et je pense que le pays a besoin d'universités fortes, à la fois pour la formation initiale et je pense aussi de plus en plus pour la formation continue de l'ensemble des citoyens, voire des habitants de notre pays ou au-delà de notre pays. C'est une mission essentielle de l'université et nous voulons contribuer à sa réussite.
Alors aussi, en fait de mission de l'université, il y a aussi l'idée du rayonnement national et international. Il y a une partie d'étudiants dont on a beaucoup entendu parler et dont on n'entend plus trop parler, c'est les étudiants extra-communautaires. Alors qu'est-ce qui arrive pour eux à cette rentrée universitaire à Tours en tout cas?
Eh bien, malheureusement, le gouvernement a décidé dans une logique économique absolument aberrante, puisque tous les chiffres sont contre lui, d'augmenter considérablement, c'est multiplié en gros par 15, entre 15 et 20, les frais d'inscription pour les étudiants relevant d'autres pays que l'Union européenne ou les États-Unis et le Canada. Donc l'effet de ce dispositif est très simple. C'est moins d'étudiants venant de l'étranger pour suivre des études en master. Et moins d'étudiants venant de l'étranger pour suivre des études en master, c'est évidemment un affaiblissement de notre capacité à former les nouvelles générations. Ça met en péril dans un certain nombre d'endroits des formations qui ne vont pas avoir suffisamment d'effectifs ou qui vont devoir élargir leur spectre, c'est-à-dire être moins spécialisé, donc moins dans une logique de master, pour avoir des effectifs raisonnables, pour avoir des dynamiques collectives au sein des enseignements. Et à terme, à très vite, une brève échéance, puisque le cycle master dure 2 ans, ça fera moins d'inscriptions dans les formations doctorales, c'est-à-dire moins d'étudiants français ou étrangers qui travailleront à élaborer les nouvelles connaissances, mais aussi à faire fonctionner les laboratoires, à participer aux manipulations, aux recherches, que ce soit sur le terrain, ça dépend des sciences humaines ou des sciences biologiques ou des sciences dures. Donc c'est très nettement un affaiblissement du rayonnement intellectuel de la France et un affaiblissement des universités, et c'est une mesure qui est très très inquiétante. Et on voit les effets immédiatement. Par exemple, moi je suis mathématicien, on avait depuis plusieurs années une très bonne coopération avec plusieurs universités du Vietnam. C'est maintenant difficile, avec l'augmentation des frais d'inscription, d'attirer des étudiants vietnamiens. Or, la formation en France pour ces étudiants, c'était absolument un atout par rapport à l'état insuffisamment développé de l'enseignement supérieur spécialisé en mathématiques au Vietnam. Donc c'était d'un très grand intérêt à la fois pour la France comme pour le Vietnam.
Est-ce que vous avez des chiffres sur l'université de Tours qui attesteraient justement d'une baisse d'inscription de ces étudiants extra-cumains?
Les inscriptions sont provisoires et en particulier les inscriptions en master peuvent se faire encore tardivement. Donc je ne veux pas m'engager à donner des chiffres qui seraient éloignés de la réalité. Donc c'est la tendance que nous avons. Pour ce que je viens de vous dire en mathématiques, c'est avéré. Pour les autres disciplines, c'est les informations que l'on a, mais ça demande, j'espère, à être infirmé par l'arrivée des étudiants qui, en plus, vous le savez bien, compte tenu de la politique française et européenne, ont de plus en plus de problèmes de visa pour venir s'installer en France.
Et alors, si
même pour faire seulement des études.
Et oui. Et si je vous dis Parme, Jean-Fabry, ça vous évoque quoi?
Alors, mon nom à consonance italienne, j'aurais d'abord pensé à la très jolie ville de Parme, mais malheureusement, mon expérience d'universitaire à Tours évoque un dispositif élaboré par le président Philippe Vindrix et sa vice-présidente Cécile Goy, qui est extrêmement brutal et qui vise à normaliser les enseignements de licence. En les adossant pour faire des économies sur des moyens audiovisuels et numériques de manière progressivement à réduire la part d'enseignement présentiel, c'est-à-dire d'échange avec les personnels. C'est un dispositif qui contraint beaucoup de collègues, qui ne correspond pas à une pédagogie vivante et active. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les collègues récusent les moyens actuels, nouveaux à venir en termes d'enseignement à distance, d'utilisation des nouvelles technologies. Mais pour nous, l'essentiel de l'enseignement supérieur, mais ça vaut aussi pour les enseignements secondaires, c'est l'échange, la présence, c'est la capacité d'interréagir. Et il n'y a rien de mieux que la présence dans le même lieu d'un enseignant-chercheur et d'un étudiant pour faire avancer ces points.
Vous voulez expliquer ce que vous entendez exactement par enseignement numérique?
Alors, l'idée du ministère d'ailleurs, et qui a été reprise et intensifiée par Philippe Vindrix et Cécile Goy, qui de ce point de vue n'ont rien inventé, c'est que mettre des enseignants devant des étudiants, ça coûte cher. Enfin, c'est un coût. Dire que ça coûte cher, c'est très excessif. Mais qu'on peut remplacer ça en filmant un enseignant faire un cours, et qu'à ce moment-là, eh bien, le cours étant mis sur une plateforme accessible par Internet, bah, les étudiants n'ont plus qu'à se connecter pour suivre la présentation du cours. On peut même faire des interrogations écrites de type QCM par Internet, et que ça résout énormément de problèmes. Alors on va présenter ça comme formidable parce que les nouvelles générations censées être nées avec Internet vont pouvoir adapter leurs horaires, leur mode de vie à ces nouvelles formes d'enseignement, c'est-à-dire éventuellement suivre un enseignement de 2h à 3h du matin, répondre à l'interrogation écrite, dire entre 22h et 23h. Bon, mais ça c'est un vrai délire, ça n'arrive jamais. Donc l'effet avant tout, c'est de décourager les étudiants de participer activement aux échanges avec des enseignants qui sont formés pour attirer l'attention, pour répondre aux questions, pour expliquer une fois, deux fois, trois fois, par des biais différents, les notions, les enjeux, faire les manipulations quand les enseignements le requièrent. Donc on voit bien que la logique est avant tout une logique économique, puisque le cours, une fois produit et sur Internet, vous n'avez plus besoin de renouveler les années suivantes. Et à la limite, si les choses marchent, on n'a plus besoin de locaux universitaires, on n'a plus besoin de chauffer les locaux, donc c'est formidablement économique. C'était le rêve américain il y a une vingtaine d'années. En France, on adopte très souvent ce qui vient d'outre-Atlantique avec quelques années de retard, même quand c'est un échec, mais on a vu que ça ne marchait pas. La mode des MOOC aux États-Unis est très vite retombée puisqu'il y avait quelques pourcentages de succès pour des enseignements qui étaient effectivement au départ sur lesquels s'inscrivaient des centaines de milliers d'étudiants. Ça ne marche pas.
Mais pourtant, cette idée de cours dématérialisé, est-ce que ça n'existe pas déjà, par exemple, à la faculté de médecine ?
Mais ça, alors, il y a deux aspects. Ça existe ponctuellement à la faculté de médecine, mais essentiellement pour la PACES. La PACES a vocation à disparaître dans moins de 2 ans. Et ça fonctionne pour des étudiants hyper motivés qui ont un objectif extrêmement précis. À la fois extrêmement précis comme réussite d'études, et les objectifs de chacun des enseignements sont eux aussi extrêmement précis. Ils relèvent le plus souvent d'ailleurs de réponses binaires à des QCM, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des enseignements. Donc ce qui peut fonctionner en PACES, je ne dis pas d'ailleurs que c'est la meilleure solution, mais c'est vrai que ça fonctionne, mais la PACES en elle-même fonctionne si mal que le gouvernement a décidé de changer ce dispositif, n'est pas nécessairement prolongeable à d'autres filières.
Donc vous voulez dire que finalement ce système, ça laisserait, en tout cas sur le carreau, disons...
90% des étudiants. C'est considérable, oui.
Voilà, donc c'est ce serait élitiste, ce format.
Bien sûr, ce dispositif favorise les étudiants qui sont sûrs de leur cursus de formation, soutenus par cette ambition, soutenus par leur milieu familial, et qui n'ont pas besoin de travailler, d'être distraits par d'autres activités justement alimentaires pendant leurs années d'études. Donc ce qui est plutôt nécessaire pour faire réussir les étudiants, c'est l'augmentation des bourses, le contraire de la suppression de plusieurs dizaines d'euros pour les APL telle qu'elle a été lancée par le gouvernement au début du quinquennat.
Voilà, donc on voit bien que, en tout cas, Jean Fabry, je ne sais pas si c'est votre point de vue ou si c'est celui du CNESUP, mais que vous êtes vigilant à ce que chaque étudiant puisse avoir une chance de réussir.
Mais bien sûr, enfin, ce que j'exprime là est tout à fait collectif, hein. C'est l'analyse que fait le CNESUP au niveau national et au niveau local des conditions de la rentrée, ce que je décline sur les préoccupations nationales par rapport aux étudiants étrangers, par rapport aux APL, ou par rapport aux conditions d'accès au logement, à la nourriture, aux soins. Aux soins, il faut savoir que nous sommes battus à Tours avec succès pour la transformation en centre de santé de ce qui existait jusqu'à une dizaine d'années et qui était essentiellement préventif comme médecine à destination des étudiants. Nous sommes heureux que nos démarches aient abouti et que les étudiants qui, loin de chez eux, sont le plus souvent très démunis du point de vue santé, puissent consulter et se faire soigner. Et c'est un élément, mais c'est malheureusement pas le seul, pour contribuer à la réussite des étudiants. C'est aussi que les étudiants puissent se consacrer à 100% à leurs études, soient logés convenablement, puissent faire 3 repas par jour et dans de bonnes conditions, à la fois de ce qu'ils s'alimentent et des conditions dans lesquelles ils prennent leur alimentation. Donc l'accès et la réussite à l'université, c'est un tout global. Et même si nous sommes avant tout un syndicat qui défend les conditions matériel et les conditions, on veut dire, y compris éthiques de vie et de travail des universitaires, en particulier sur les libertés pédagogiques auxquelles nous sommes extrêmement attentifs, hein, liberté pédagogique comme liberté de recherche, nous sommes évidemment très soucieux des conditions dans lesquelles peuvent étudier et réussir les étudiants.
Mais alors dans ce que vous dites, on entend aussi, enfin on peut en tout cas comprendre, vous allez me dire si c'est juste ou pas, que peut-être que c'est pas grave d'arriver à la fac en n'ayant pas un projet totalement défini, que c'est peut-être pas grave si on rate, si on redouble.
Nous sommes absolument contre une logique d'aiguillage et de parcours direct et de prérequis. Nous pensons, et nous avons été malheureusement souvent les seuls à le dire, que les nouvelles générations, mais comme leurs prédécesseurs, ont, une fois le bac en poche, à 18 ans environ, la possibilité de réfléchir, dans certains cas de prendre leur temps, de façon à découvrir des disciplines qui ne sont pas vues au lycée et à trouver un parcours de vie, un parcours de formation et un parcours professionnel qui leur conviennent. Les chemins directs sont des chemins possibles, mais ne sont pas les seuls.
Voilà, donc parce que j'imagine bien quand même que le retour que vous avez dû avoir, c'est que malgré tout, des étudiants auxquels on laisse la possibilité de se réorienter, de redoubler ou même de faire quelque chose qui finalement ne les intéresse pas, que ça a un coût. Peut-être que c'est aussi une remarque que vous avez entendue.
Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics, à la fois évidemment au niveau national auprès du ministère, mais aussi auprès de la rectrice l'année dernière, sur la difficulté de réorientation des étudiants qui avaient échoué en première année et qui souhaitaient se réorienter. Donc ces étudiants, avec le dispositif Parcoursup, sont le plus souvent mis à la fin des listes et donc ont des difficultés à s'inscrire dans la filière qui, après soit une année de réflexion, soit un échec, mais l'échec c'est souvent un échec ponctuel, on a suivi des enseignements, mais on a réussi certains et pas tous, et conduisent à une réorientation des thématiques et des centres d'intérêt, nous voulons que ces étudiants puissent se réinscrire. Malheureusement, c'est maintenant très difficile, et Parcoursup, comme nous l'avons dit, est un mécanisme d'exclusion, tout à fait dans la logique de ce que met en avant le gouvernement et malheureusement le président de l'université aussi, c'est-à-dire que les étudiants, on peut dans certains cas s'en passer et l'université s'en portera pas plus mal, ce qui n'est pas l'avis du SNESU.
Est-ce qu'il y a des étudiants, enfin en tout cas des jeunes, sans filière fixe du côté de la fac de sciences ? Vous en avez encore des recalés, entre guillemets, de Parcoursup ?
Alors, je n'ai pas eu les derniers chiffres, mais la situation était tendue en sciences de la vie.
C'est-à-dire ?
Eh bien, du point de vue des capacités d'inscription de tous les étudiants et de tous les redoublants possibles en sciences de la vie. Il y a une capacité d'accueil qui a été mise à 600 étudiants. Et compte tenu des inscriptions à la fois des primo-inscrits, des redoublants d'université, des réorientés, pour le moment, je ne suis pas certain que tous les étudiants qui en ont fait la demande de l'académie et hors académie, puisque certains peuvent bouger pour des raisons variées, déplacement de la famille, déplacement personnel, etc., recherche d'un travail et obtention d'un travail. Je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais je ne suis pas certain que la situation soit résolue pour tous.
Alors, à votre avis, ça va barder à la rentrée ?
Je ne peux pas faire de prévision. La seule chose, c'est que nous, syndicalement, avec la force du SNESUP dans l'université, où on entraîne plusieurs centaines de collègues à réfléchir, à faire des propositions, à intervenir dans les conseils, à organiser les protestations collectives quand il s'agit d'ouvrir un groupe de TD supplémentaire, d'essayer d'accueillir des étudiants, de ne pas faire obstacle à la présence d'étudiants sans papier quand certains réussissent à arriver à l'université, ben, nous essayons de faire en sorte que l'université remplisse au mieux ses missions. Ça n'est pas facile, mais nous espérons gagner en force, gagner dans les mobilisations pour imposer des changements raisonnables et responsables pour que l'université remplisse pleinement ses missions.
Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'appel à la grève du SNESUP.
Il n'y a pas d'appel spécifique à Tours pour les prochains jours. D'ailleurs, la rentrée s'étale en gros sur les 15 premiers jours de septembre. Nous allons aussi faire le point avec nos collègues syndiqués pour voir l'état réel des difficultés et nous participerons à des réunions, et y compris aux actions nationales qui sont en cours, actions importantes sur la question de la fonction publique, hein, et actions très importantes aussi sur la question des retraites qui préoccupent à juste titre les enseignants du supérieur, comme plus largement les fonctionnaires. Puisque la réforme des retraites telle qu'elle est prévue, elle diminuerait considérablement la retraite des enseignants-chercheurs.
Vous voulez nous dire de combien elle serait diminuée?
Alors évidemment, les situations sont très difficiles, mais le principe, il y a deux principes à avoir. C'est d'une part que les enseignants-chercheurs commencent leur vie active tardivement, hein, puisqu'ils font des études très longues. Un enseignant-chercheur, il a Bac plus 8 au moins, donc ça veut dire que son entrée dans la vie active, elle est plus proche de 30 ans que de 20 ans, voire de 25 ans. Donc, entrée tardive dans la vie active et progression salariale très modique, en gros entre un début de carrière de maître de conférence et une fin de carrière de maître de conférence, il n'y a pas de multiplication par 2. Hein, c'est moins que 2, ça doit être 1,7. Donc actuellement, la retraite, elle est calculée à 80% sur le salaire à la fin de la carrière.
Et à titre indicatif, c'est quoi un salaire de fin de carrière pour un maître de conférence?
Pour un maître de conférence. Les situations sont compliquées parce que les salaires actuels, enfin c'est compliqué depuis l'année dernière, où les salaires sont perçus en net après la prise en compte des situations familiales sont donc après impôt en quelque sorte. Donc ça devient assez difficile. Bon, en gros, en fin de carrière d'un maître de conférence, c'est 3 500 €. C'est tout à fait pas du tout le Pérou. Donc sachant que la personne a été recrutée en général vers 30 ans et a travaillé 40 ans.
Et alors là, avec cette nouvelle réforme?
Avec cette nouvelle réforme, le principe tel qu'il est avancé par le gouvernement, c'est la prise en compte de la moyenne des 20 ou 30 dernières années. Alors comme vous voyez, il y a très peu de progression. Donc ça donne une retraite très faible. Donc c'est une baisse de plus de 20% du montant des retraites.
Donc si jamais, mobilisation il y avait, ce serait plutôt pour ça.
Il peut y avoir d'autres raisons de se mobiliser, et j'en ai cité quelques-unes, mais la question des retraites est une question absolument centrale.
Merci beaucoup et puis bonne rentrée.
Il n'y a pas de quoi. Au revoir.
Au revoir, merci.